Quelques aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée. Nous accueillons aujourd'hui Danielle Salnave, membre de l'Académie française, madame l'académicienne citoyenne, bonjour.
Bonjour citoyen.
Nous sommes ici pour parler autour de votre livre « L'Églantine et les Muguets » qui a presque un an aujourd'hui et qui a rencontré déjà beaucoup de lecteurs. Et je commencerai par une question d'actualité. J'ai été un peu surpris de lire dans votre livre des réflexions sur la colonisation en Algérie, alors que le sujet de votre livre, c'est vos racines angevines. Pouvez-vous m'en parler un peu ?
Oui, vous pouvez être surpris, je l'ai été moi-même. Parce que en travaillant sur ce livre, et en explorant de façon très minutieuse cette région de l'ouest de l'Anjou, et qui a joué un très grand rôle dans notre histoire locale et dans notre histoire nationale, c'est évidemment l'avant-révolution, la révolution, après la révolution, avec la reconquête catholique dans la région. Et en travaillant sur cette région, sur les Vendéens au sud de la Loire, les Chouans au nord du département du Maine-et-Loire, je m'aperçois à ce moment-là que quelqu'un que je connaissais, le comte de Bourmont, qui commandait l'expédition qui prit Alger, la régence d'Alger en 1830, était un ancien chouan, et était né en Anjou, et était un ancien chouan. C'est dire que la conquête de l'Algérie est liée à la fin de la monarchie de Charles X, est liée aussi à une idée générale de conquête liée à la reconquête catholique de cette partie du monde, l'Afrique du Nord. Donc le maréchal de Bourmont est tout à fait à sa place. Il fait célébrer une messe avant de partir et en arrivant.
Dans le Canard enchaîné de mercredi dernier, on trouve une chronique d'un livre qui vient de paraître, Empires illusoires de Bouddha et Thémade, qui cite le diplomate Louis-André Pichon, qui en 1840 se désolait. Nous gouvernons ce pays comme s'il n'y avait ni Maure, ni Arabe, ni Kabyle. J'ai eu cette idée en tête en venant vous rencontrer tout à l'heure, parce que d'aucuns aujourd'hui voudraient que de nouveau se préoccupent de ce qui se passe en Algérie.
Oui, mais l'Algérie, nous la portons avec nous depuis 1830, continuellement, à travers l'histoire de la pacification d'Algérie, à laquelle les monarchistes, les officiers monarchistes ont participé, mais à la fin de la monarchie, à partir de 1848, pendant la Deuxième République, et après 1870, ce sont des officiers républicains qui reprennent la tâche de pacification. Il y a un transfert de responsabilité dans la continuité. Il y a de grands antagonismes politiques et religieux, mais sur le plan de l'Algérie, pas tant que ça. Du coup, l'Algérie est quelque chose que nous portons, qui va se réveiller bien évidemment très violemment. Je ne dirais même pas en 1954 avec le début des grands événements qui mèneront à l'indépendance, mais dès 1945, au lendemain même des grandes fêtes de la libération, on pacifie Sétif. Et le nombre de morts, on l'a toujours pas évalué. Il est plus de 20 000, peut-être encore davantage. Donc, l'Algérie, c'est vraiment quelque chose qui est sans cesse avec nous. D'où en effet la difficulté de prendre des positions. Aujourd'hui, on voit bien que la diplomatie et le gouvernement français sont très très prudents avant d'aborder quoi que ce soit. Il ne faut pas donner un signe d'ingérence, mais pas non plus un signe d'indifférence. Et l'Algérie, c'est vraiment une plaie ouverte à notre flanc, c'est certain.
Revenons au cœur du livre. Une pérégrination, tout a été dit, un retour aux sources, familiale, réflexion sur l'actualité. J'avais ajouté un parfum d'universalisme, mais aujourd'hui, ce terme est parfois employé à contresens, comme celui de la laïcité. C'est un sujet qui traverse votre livre, ce problème de contresens.
Oui, je voulais au fond rendre hommage à ce que j'ai reçu, moi, enfant de famille d'instituteurs, dans une région de la France et dans une région de l'ouest de la France où l'école publique n'était pas particulièrement bien vue. Au lendemain de la guerre, quand mon père est revenu de captivité et a retrouvé son école, et jusque dans les années 50 et 60, la guerre scolaire, c'est pas une chose abstraite, c'est quelque chose de très concret dans cette région. J'ai acquis, moi, des convictions très fermes concernant l'école publique, concernant la nécessaire séparation de l'État et des églises, et concernant aussi une lutte continue et d'un principe que je partage et propage et qui est toujours mal vu, qui est l'anticléricalisme. Anticléricalisme, c'est tellement très bien, très mal vu. On pense que c'est des gens stupides, étroits, qui racontent des choses vulgaires, voire obscènes sur l'Église, alors que anticlérical veut dire au sens propre qui s'oppose à tout pouvoir clérical sur la société et sur les citoyens qui la composent. Donc, je pense que cette lutte-là, elle est toujours présente. Qu'on puisse l'étendre à toutes les religions, je le crois vraiment. C'est ça la dimension universaliste. Mais, en même temps, ce que j'ai appris, je dis en même temps, c'est à la mode, mais je dis en même temps, ce que j'ai appris aussi, c'est que nous devons aussi entrer dans la considération des situations historiques, des développements historiques, et pour chacun, et de sa place par rapport à sa religion, ses origines, etc.
Dans le même ordre d'idées, comme vous le savez, le président de la République a déclaré, peu après son élection, vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église catholique et l'État. Monseigneur Charles-Émile Frépel, que vous épinglez un peu, disait en son temps, il s'agissait alors d'une décision de la municipalité républicaine d'Angers, il y en a eu quelques-unes, dans les années 1880, donc avant la séparation, et cette municipalité venait de supprimer les subventions aux écoles congréganistes, ce qui a fait grand scandale. Et donc Charles-Émile Frépel, qui était à la fois évêque d'Angers et député monarchiste de Brest, disait ceci. Les frères des écoles chrétiennes seraient-elles odieuses au parti radical parce qu'au lieu d'y apprendre à chanter la Marseillaise et à coiffer le bonnet rouge, on y apprend la crainte de Dieu, le respect de l'autorité, l'amour de la discipline, l'esprit de dévouement et de sacrifice, toutes choses qui ne portent ni de près ni de loin à faire des émeutes, à incendier les monuments et à fusiller les prêtres. Est-ce là ce qu'il déplaît ?
Il est évident que Mgr Frépel, né non pas en Anjou mais en Alsace, puisque Mgr Frépel est d'Aubernais, député de Finistère, a joué un très grand rôle à Angers dans ce moment. C'est un homme de grande envergure et du point de vue qu'il représente, c'était vraiment un combattant de premier ordre. On lui doit entre autres la création de l'Université catholique de l'Ouest et on lui doit beaucoup de choses, si on peut dire, en tout cas l'Église et les chrétiens, les catholiques, ils lui doivent beaucoup dans cette région. Monsieur Frépel a vraiment dans l'esprit, et il a raison, l'enseignement, et l'enseignement primaire en particulier. Il pense que c'est à ce niveau que se joue profondément les choses. Et je crois qu'il n'a pas tort. Donc, forcément, il est indigné on supprime les subventions et ensuite il y aura une expulsion des congrégations. C'est de la commune qu'il parle, évidemment, fusiller les prêtres, incendier les monuments. Mais évidemment, l'image qu'il donne en face de la religion qu'il représente ne serait que paix, sacrifice et dévouement. La commune est une chose redoutable. Je suis passionné par l'histoire de la commune. Je pense que c'est un des grands moments d'histoire de France. Mais on pourra raconter l'histoire de la chrétienté, l'histoire du catholicisme. Ce n'est pas uniquement l'esprit du dévouement. Sans vouloir lui opposer immédiatement l'inquisition, on pourra avoir un mauvais esprit qui lui en parlerait quand même.
Les identitaires, puisque le mot est à la mode, se réclament parfois aujourd'hui, dans la frange de l'extrême droite de l'échiquier politique de Mgr Frépel et de ses œuvres, puisqu'il avait par ailleurs organisé une procession du Saint-Sacrement à Saumur pour reconquérir les terres protestantes. On n'est plus sur les protestants, mais souvent sur les musulmans, et cet esprit de laïcité identitaire, si ces deux mots peuvent coexister, et quelque chose que vous stigmatisez dans votre livre.
Oui, je pense que, entre autres, vous parlez de la possession de Saint-Sacrement, il a aussi fait renaître un pèlerinage dans l'île de Béarn qui avait totalement disparu et qu'il représente comme une tradition. Les identitaires sont toujours prêts à montrer une tradition qui ne s'est jamais interrompue. C'est complètement faux, il y a des traditions qui s'interrompent. exemple. L'île de Béhar, depuis Louis XI, elle n'était plus du tout un lieu de pèlerinage. Mais il est clair qu'il faut toujours dire les choses avec beaucoup de simplicité et de calme. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est la neutralité de la sphère publique, c'est aussi la liberté dans l'espace public de se vêtir comme on le souhaite, de pratiquer le culte qu'on souhaite du moment qu'on n'empiète pas sur les autres et qu'on l'exprime selon ses propres convictions. La laïcité, c'est en effet cela. Donc chaque citoyen se doit de respecter les lois fondamentales de la République, mais dans l'espace public et pas seulement dans la sphère privée, pas simplement à l'intérieur de son cœur, on peut pratiquer et faire connaître les engagements religieux qu'on a. Je n'ai aucune espèce de On avait, vous savez, au moment de 1905, il y a eu un grand débat. Est-ce que les religieuses et les prêtres pourraient continuer de porter l'habit religieuse et de prêtre dans la rue? Non. Et finalement, Aristide Briand et la sagesse l'emportent. Oui, c'est tout à fait possible dans l'espace public, mais pas dans l'espace de la sphère publique, ce qui est autre chose. Quant à la sphère privée, elle est en effet totalement libre. Donc je crois qu'il faut qu'on ait une laïcité, non pas une laïcité à dimension variable, ouverte ou fermée, pas du tout. Il faut qu'on ait une laïcité ferme, mais qu'on donne bien les lieux où elle s'applique et jusqu'à quel point on doit en effet imposer les règles et sous quelle forme on les impose.
Alors vous m'avez fait part tout à l'heure de quelques-uns de vos projets hors micro. Nous en avons un à l'Association internationale de la libre pensée qui aura lieu en 1920 à Madrid, à l'initiative en particulier de l'association espagnole Europa Laica. Et le thème de cette manifestation internationale, puisque si tout va bien, il y aura entre 30 et 50 pays de représentés, sera un échange le plus large possible sur la question de la promotion de l'école publique et laïque. Et nous avons une ambition, c'est de faire en sorte que ce congrès puisse être aussi fondateur ou refondateur, même si le mot là aussi est maintenant connoté, que celui de 1904 qui avait préparé la loi de séparation, non seulement en France, mais aussi dans le canton de Genève, etc. Sur cet aspect international et sur votre éventuelle possibilité de travailler avec nous là-dessus.
Moi, je pense qu'il serait bon qu'on fasse comprendre de nouveau, là encore, calmement et fermement, sans hostilité particulière à l'égard de tel groupe. Il ne s'agit pas d'apporter le feu partout. Il s'agit de bien faire comprendre. L'école laïque, c'est l'école de tous. C'est très compliqué, la question des rapports entre école publique et école privée en France, école sous contrat, école avec contrat. Il est clair qu'on a voulu, à un moment, on a pensé qu'on pourrait réunifier un grand système éducatif. C'est une question sur laquelle je ne vais pas entrer. Nous n'avons pas le temps de la poser clairement, sans parler d'y répondre. Mais je crois que faire comprendre à tous que l'école est un lieu dans lequel la neutralité, bien évidemment, des enseignants s'impose, mais aussi l'intralie de l'enseignement lui-même. Les enfants sont là, enfants, adolescents, sont là ensemble, en mettant entre parenthèses le temps de l'école, les engagements religieux, les convictions, surtout quand il s'agit d'enfants, convictions plutôt de leurs parents que d'eux-mêmes d'ailleurs. Faire se confronter un petit catholique, un petit protestant, un petit musulman en classe, c'est franchement pas bien, puisque c'est pas lui qui est en jeu, c'est son père, c'est sa famille. Donc ne parlons pas des religions, nous allons susciter des réflexes de défense ou d'agression que les enfants développent pour défendre leur famille. On attaque la religion de ma mère ou de mon père, non. Faisons des maths, faisons du français, faisons de la technologie, apprenons-leur à manipuler Internet et à ne pas se laisser manipuler aussi par Internet. Apprenons-leur tout ce qui doit être appris en commun à des enfants, en tenant compte des difficultés singulières, des expériences personnelles, sociales, etc. Mais par pitié, laissons la religion à la porte. Et il y a tout le temps d'avant et autour de l'école pour que les parents donnent tout l'enseignement religieux qu'ils veulent aux enfants, mais que l'école soit tenue à l'écart. Ainsi, on créera aussi des lieux où les enfants pourront se souvenir qu'ils ont été ensemble. Je ne savais même pas, dira-t-on, ce que je peux dire, moi, par rapport à des condisciples. Je ne savais même pas qu'il appartenait à telle religion. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas, je le découvre après. C'est magnifique, ça. Parce que pendant ce temps-là, on fait des maths. Et on n'a pas l'esprit envahi par « est-ce qu'on n'est pas en train d'attaquer ma religion ?» Ça ne rend pas tout à fait disponible à étudier la grammaire ou les maths.
Merci beaucoup pour ces propos. Avez-vous des projets, de nouveaux projets littéraires ?
Littéraire toujours. Je suis très intéressée pour l'instant par ce phénomène, je dois dire, des gilets jaunes. J'ai le sentiment que, avec toutes les réserves, toutes les critiques qu'on peut faire sur certaines déviances ou dérives, ça, je l'ai fait complètement. Mais un couvercle s'est soulevé. Quand un couvercle se soulève, il retombe pas forcément tout de suite. Et il peut passer de mauvaises choses, il peut en passer de très bonnes aussi.
Donc on peut s'attendre à ce que vous commenciez à écrire sur ces questions-là. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame l'académicienne.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Je remercie l'équipe de France Culture qui a préparé cette émission. Vous pourrez retrouver le texte en podcast sur le site de France Culture et en texte écrit sur le site www.fnlp.fr, le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Merci encore, à bientôt, chers auditeurs.